Radio Okapi.
Okapi. Okapi Service avec Marcel Ngombombala. Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine de la vie au quotidien au Capi Service Drépanocytose ou anémie SS. Quelles sont les causes et comment s'est fait la prise en charge médicale? Eh bien, on en parle ce matin avec notre invité, Dr Junior Ndala, anesthésiste, réanimateur et phytothérapeute. Il est avec nous dans ce studio, Dr Junior Ndala, bonjour.
Bonjour, bonjour, bonjour à vous, bonjour également à tous les auditeurs de la radio Capi.
Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation. Après le flash d'information des 11h, heure de Kinshasa, on va parler de quels sont les acquis de l'indépendance pour la jeunesse congolaise. Amouli Erimani, coordonnateur national de l'Union congolaise pour les progrès sociaux, sera notre invité. Voilà le menu pour le magazine Okapi Service de ce jour. Tati Mapoku réalise et coordonne ce magazine. La mise en onde est assurée par Pierre Dessinois. Au micro, c'est Marcel Ngomombala sous la supervision de Jean-Marc Matoki. À toutes et à tous, excellentes conditions d'écoute de ce nouveau numéro de la vie au quotidien Okapi Service.
Okapi, Okapi.
La journée mondiale de lutte contre la drépanocytose ou anémie SS est célébrée le 19 juin de chaque année en Afrique. La RDC est le deuxième pays le plus touché par cette maladie après le Nigeria, selon nos sources. La prévalence de l'anémie SS représente un lourd fardeau pour les personnes touchées et leurs familles. Alors, quelles sont les causes de la drépanocytose ou anémie SS? Comment s'est fait la prise en charge médicale et comment prévenir cette maladie? Je le disais, on en parle avec notre invité, le Dr Junior Ndala, anesthésiste, réanimateur et phytothérapeute. Si vous êtes intéressé, si vous voulez intervenir, vous pouvez nous faire un voice hein, au numéro 099-716-9941. C'est sur WhatsApp. Voilà, c'est parti pour le magazine Okapi Service de ce jour. Docteur Junior Ndala, encore une fois, bonjour.
Bonjour, bonjour. Je vous remercie beaucoup pour cette invitation à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre l'anémie SS, également appelée la drépanocytose.
Alors on va parler de cette maladie, de la prévention, des signes, de sa prévalence. Alors s'il faut commencer d'abord par aider les auditeurs et les internautes qui nous suivent à comprendre c'est quoi la drépanocytose ou anémie SS.
Merci beaucoup, merci pour cette très bonne question que j'ai beaucoup appréciée. En fait, la drépanocytose ou l'anémie SS est une maladie appelée également maladie héréditaire, une maladie génétique. C'est-à-dire que c'est une maladie à transmission génétique. Les parents qui sont porteurs de l'hémoglobine falciformée dans leur sang, l'hémoglobine falciformée, c'est l'hémoglobine S. En fait, si le papa est hétérozygote AS, maman également hétérozygote AS, il y a une forte probabilité que...
Mais quand vous parlez d'hétérozygote, ça vous risquez de perdre les nombreux auditeurs qui sont pas de ce domaine. Alors si le papa, quand on dit hétérozygote, ça c'est on trouve ça dans les gènes, c'est ça?
Voilà, c'est oui. Par rapport à l'hémoglobine. Hein,
ouais, l'hémoglobine.
Voilà. Alors l'hémoglobine hétérozygote ou bien AS, il y a également l'hémoglobine homozygote qui peut être AA ou bien SS. Alors le parent qui porte.
Et l'hémoglobine, on le trouve dans les sang, c'est bien ça. Et
effectivement, l'hémoglobine se trouve dans les sang. Et c'est l'hémoglobine, en fait, qui transporte l'oxygène.
Hein. Oui.
Voilà, donc, voilà son utilité, son importance capitale dans la vie, dans le fonctionnement de l'organisme. Donc, si les parents portent l'hémoglobine S, la maman également porte l'hémoglobine S, En fait, il y a forte probabilité que dans la transmission génétique, que les enfants qu'ils vont avoir, qu'il y ait des enfants porteurs de l'hémoglobine falciformée S. En fait, c'est ça qui peut expliquer alors la naissance des enfants drépanocytaires qu'on voit.
Alors, c'est une maladie qui se transmet en tout cas à la naissance, hein, c'est-à-dire que lorsqu'un enfant vient au monde, et si les parents, comme vous l'avez dit, ont cette hémoglobine falciformée, c'est-à-dire que c'est pas la bonne hémoglobine, c'est ça.
Exactement, oui. c'est ça qui est mauvais. L'hémoglobine falciformée, d'ailleurs, c'est la cause de toutes les complications, tous les problèmes que nous voyons, qu'on retrouve chez les patients, les enfants drépanocytaires. En fait, la base, c'est ça, cette transmission-là. En fait, la probabilité est d'environ 25%. Pour deux parents, la maman AS, le papa AS, il y a en fait 25% qu'ils puissent avoir des enfants porteurs de l'hémoglobine SS. Alors il y a également ce qu'on appelle la drépanocytose hétérozygote. Alors ça, on les retrouve dans des cas où le drépanocytaire a plus l'hémoglobine S et plus nombreux que l'hémoglobine A. En fait, on se retrouve également devant une situation de drépanocytose.
Alors, on va parler de la prévention de cette maladie parce qu'on se rend compte lorsque vous dites que ce sont des maladies, c'est une maladie transmise par les parents aux enfants. Donc, on se rend déjà compte qu'il faut déjà une certaine prévention au niveau des couples. Hein. Alors, avant d'y arriver, quels sont les signes de cette maladie?
Une très très bonne question. Merci beaucoup. Merci pour cette question. D'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié les rapports que vous avez donnés tout à l'heure, hein, en montrant que notre pays, en fait, vient après le Nigeria. Ça veut dire que nous avons beaucoup, beaucoup de cas de drépanocytose dans notre pays. En d'autres termes, on peut dire que c'est un problème réel de santé, oui. Un véritable problème de santé.
De santé publique,
effectivement. Donc, pourquoi? Parce que on a plus de personnes porteurs de l'hémoglobine AS que d'autres. Donc, les AS sont beaucoup plus nombreux. Alors, lorsqu'il y a une rencontre, croisement, tout ça, entre l'homme AS, la femme AS, eh bien, il y a une probabilité que les enfants qui vont mettre au monde, qui aient des enfants porteurs de l'hémoglobine falciformée, S qui est à l'origine de toutes les complications que nous voyons chez les drépanocytaires. Alors, la prévention, c'est quoi? Qu'est-ce qui est... D'abord, vous avez parlé de signes cliniques, exactement. Ouais. Merci beaucoup. En fait, les signes cliniques, ce sont des signes qui sont généralement simples, faciles à voir, à identifier. D'ailleurs, même la plupart des personnes qui ont un enfant drépanocytaire dans leur foyer, ils vous identifient que cet enfant n'est pas bien portant, doit certainement avoir peut-être l'anémie SS, la drépanocytose, à partir des signes cliniques. Déjà, il faut noter qu'à partir de 6 premiers mois, parce que il est important de noter que c'est à partir de 6 premiers mois que
Les premiers signes apparaissent.
Voilà, exactement. Oui. Chez la plupart des patients, on aperçoit les premiers signes. Certains peuvent aller jusqu'à 2 ans. Pourquoi ça? Parce que à la naissance, quand l'enfant vient au monde, il vient au monde avec une hémoglobine qu'on appelle l'hémoglobine fœtale, qu'il a acquis depuis le ventre maternel. Donc, cette hémoglobine lui protège l'enfant. Mais plus l'enfant grandit, plus également cette hémoglobine aura tendance à diminuer. Et l'enfant maintenant va fabriquer son propre hémoglobine qu'il va vivre avec ça. Il aura ça toute sa vie. Donc c'est un peu ça. Voilà pourquoi ce n'est qu'à partir de 6 premiers mois qu'on observe la manifestation des signes cliniques. Et parmi les signes, le premier signe généralement, c'est ce qu'on appelle les syndromes pied-main. Main-pied ou bien pied-main.
Oui.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, on observe une inflammation des mains, des articulations, des membres thoraciques, mais également des membres pelviens. Ces membres s'enflamment, il y a une augmentation, on voit que les doigts, tout ça, les orteils, etc.
Ils sont gonflés et puis ça fait mal.
Exactement, et l'enfant se plaint de douleurs, ouais. j'ai mal. Papa, maman, si vous voyez l'enfant, votre enfant qui est peut-être âgé de 6 mois, 7 mois ou une année, et se plaindre, vous observez ces signes cliniques, en tout cas, pensez en premier lieu, bien sûr, hein, ça peut également avoir une autre étiologie ou bien une autre cause, mais pensez d'abord à lui amener en consultation pour que l'enfant fasse les examens appropriés comme l'électrophorèse d'hémoglobine pour savoir s'il n'est pas drépanocytaire.
Et à part ça, il y a quels sont les autres signes?
Exactement, à part ça, il y a également d'autres signes, ce que nous appelons des crises vaso-occlusives, des crises qu'on observe chez les drépanocytaires, qui peuvent se manifester par des douleurs osteoarticulaires, parfois également.
Des douleurs au niveau du os et des articulations.
Exactement, c'est ça. Donc au niveau de ces articulations, des os, l'enfant se plaint, j'ai mal, papa j'ai mal, maman j'ai mal à la, au bras, j'ai mal au, à la jambe, etc.
Au genou.
Effectivement. Et quand on entend ça, chers parents, eh bien, prêtez attentivement l'attention à ces plaintes de l'enfant. Parce qu'en fait, il est important de noter que ces douleurs osteoarticulaires, en fait, sont des douleurs qu'on les qualifie en médecine comme une douleur, une pseudo-fracture. Comme si c'est une fracture.
Alors qu'il n'en est rien.
Et effectivement, alors qu'il n'y en a pas. Oui. En dehors de ça, il y a également d'autres signes, comme par exemple l'ictère au niveau des yeux. C'est ce qu'on appelle la jaunisse.
Oui.
Vous voyez des yeux qui ont une coloration un peu jaunâtre. Eh bien, si vous voyez ça, c'est déjà un signe qui vous indique qu'il doit y avoir un problème qui nécessite une consultation. Ça peut être la drépanocytose. On a également des anémies à répétition qu'on observe souvent chez les drépanocytaires. Et vous amenez à l'hôpital, on vous dit non, l'enfant a par exemple 5 grammes d'hémoglobine. Et la plupart des cas, dans la plupart des structures sanitaires, on dit non, il faut transfuser tout ça. Donc, quand on observe cela, chers parents, c'est déjà un signe qui vous indique que ça peut être une drépanocytose et qu'il faudrait rapidement faire ce qu'il faut. Et il y a également ce que nous appelons une organomégalie. L'organomégalie, ça veut dire tout simplement une augmentation du volume des organes au niveau de l'organisme. Organomégalie, les organes particulièrement qui augmentent de volume, on a par exemple le foie, une hépatomégalie, il y a également la rate qui augmente également de volume, une splénomégalie. Donc, quand on observe ça, c'est ce qui fait d'ailleurs, parfois vous voyez, l'enfant et le ventre gonflé, ballonné, etc. Donc, c'est à cause de ça. Cette augmentation du volume des organes au niveau de l'organisme. On peut également ajouter autre chose, hein, parce que peut-être beaucoup des auditeurs sont attentifs pour savoir par rapport aux signes cliniques, ça peut également les orienter. La drépanocytose peut amener également les malades à faire l'AVC. Vous voyez un enfant de 12 ans qui fait un AVC.
Ah, déjà à cet âge-là.
Oui, mais bien sûr. Ouais. Donc, c'est une pathologie, une maladie aux multiples complications. Aux multiples complications, et sans oublier également ce qu'on appelle un retard statyropondéral, un retard de la croissance. Vous voyez un enfant, et on vous dit non, l'enfant a par exemple 18 ans, mais il apparaît comme un enfant qui a l'âge de 12 ans. Vous voyez, de 18 ans à 12 ans. Donc un retard important observé par rapport à la croissance de l'enfant, et sans oublier également d'autres complications comme les problèmes de scolarité. Donc l'enfant a du mal à étudier correctement comme tous les autres enfants à cause de multiples hospitalisations fréquentes à l'hôpital.
Voilà pourquoi on parle même d'un lourd fardeau pour les parents lorsque l'enfant est anémique SS. Alors, docteur, c'est important d'aider un peu les auditeurs également à préciser, parce que lorsque vous parlez d'hémoglobine, S qui est la mauvaise hémoglobine, c'est-à-dire que falciformée. Et pour éviter à ce que les gens ne puissent avoir une confusion sur le groupe sanguin, parce qu'on parle également de groupe sanguin A, B et puis O, 0, ça dépend comment des fois les gens le prononcent. C'est comment la différence? Parce que là maintenant, on se rend compte que c'est très important pour les parents, avant de se marier, de faire ces examens prénuptiaux, notamment pour savoir si vous n'avez pas cette hémoglobine, au cas où vous êtes ASAS et que vous mettez un enfant au monde qui est déjà parti des 6 mois, ces signes-là, il y a déjà lieu de penser que ça peut être un enfant qui est anémique SS.
Effectivement, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Merci beaucoup pour cette question. Ce que vous avez dit, c'est vraiment la réalité de ce qu'on observe là, de ce qu'on observe dans notre environnement.
Oui.
On observe ça, en fait. Il y a, vous avez, par exemple, en consultation, on reçoit la maman d'un drépanocytaire. Il vous dit, mais cet enfant, moi, je ne comprends pas comment l'enfant est drépanocytaire. Parce que moi, j'avais fait le groupage sanguin. Oui. On m'avait dit que je suis du groupe O, O négatif.
Oui.
Ou bien O positif. Mais comment l'enfant peut naître drépanocytaire? Chers parents, il n'y a pas de lien entre le groupe sanguin, O positif, etc., ou négatif, AB, etc. Donc, le sous-groupe qui se trouve dans le groupe sanguin, là, il y a un sous-groupe. C'est ce sous-groupe-là qui est à l'origine de la maladie qu'on appelle la drépanocytose. Donc le fait qu'ils ne connaissent pas, généralement en fait quand on demande le groupage sanguin, c'est pour que la personne sache, bon, si peut-être elle est devant une situation où il y a, il faut la transfuser,
trop sanguine,
etc. On doit maintenant pour que qu'il y ait une compatibilité par rapport à la transfusion sanguine. Voilà pourquoi on demande tout ça. Mais en réalité, ça n'a rien à voir avec, c'est les sous-groupes.
Et voilà pourquoi pour ce groupe-là, on parle d'électrophorèse.
Et voilà, ouais, effectivement. Voilà. Donc, c'est de l'électrophorèse d'hémoglobine qui permet d'identifier ces sous-groupes dont la personne porte dans son sang. Est-ce qu'elle est de sous-groupe AS? Est-ce qu'elle est de sous-groupe SS? Est-ce qu'elle est de sous-groupe AA, etc.?
Voilà, et on va poursuivre, docteur, avant d'accorder déjà la parole à Marcel Didier Passois qui nous appelle des Kinshasa. Je rappelle à ceux qui viennent de se joindre à nous sur la fréquence de la paix, c'est votre magazine de la vie au quotidien au Capi Service. On parle de la drépanocytose, anémie SS, comment s'est fait la prise en charge médicale et quelles sont les causes de cette maladie avec le docteur Junior Mdala. Il est anesthésiste, réanimateur et phytothérapeute. Si vous voulez intervenir, on insiste, vous pouvez envoyer un voice sur WhatsApp au numéro 99 706 99 41. C'est à ce numéro-là que vous pouvez nous faire un voice hein, sur WhatsApp.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Capi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42 502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42 502 et choisissez le menu de Radio Capi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Capi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Voilà, avant de parler de la prise en charge avec le docteur Junior Mdala sur l'anémie SS, on va d'abord écouter Marcel Didier Passois qui nous appelle de Kinshasa. Bonjour Marcel.
Bonjour Radio Capi, bonjour également à votre invité. Merci de la thématique du jour. C'est monsieur Marcel Didier Passois du territoire de Luisa au Kasaï Central, mais en séjour ici à Kinshasa. Merci également pour la thématique que vous avez choisie concernant la drépanocytose. J'ai quelques préoccupations pour dire que la première préoccupation, c'est de pouvoir parler non seulement de la prévention de cette maladie transmise par les deux parents, mais aussi je voudrais savoir si l'invité peut déjà nous dire s'il y a déjà, ils ont déjà commencé à envisager comment éradiquer cette maladie. La deuxième question est de savoir si cette maladie, comme je le disais tantôt, est transmise par les parents. Est-ce que l'invité peut nous expliquer comment cette maladie peut s'expliquer que ça se trouve auprès de certains enfants et d'autres enfants sont indemnes? Voilà un peu ce qu'il faudrait savoir. Et la troisième des choses, qu'est-ce qu'il peut nous conseiller pour éviter, bien entendu, de tomber dans ces pièges de la drépanocytose? Mais également, enfin, comment peut-il nous expliquer que peut-être les deux parents avant le mariage ont fait des examens qui ont démontré noir sur blanc qu'ils ne sont pas porteurs de ces germes-là, l'un comme l'autre. Mais au regard du fait que dans leur progéniture, nous retrouvons ces enfants drépanocytaires, comment expliquer ce phénomène? Merci beaucoup.
Merci Marcel Didier Passois et bon séjour à Kinshasa. Docteur Junior, vous avez suivi toutes ces questions. Il y avait cette première question, comment éradiquer hein, ou mettre fin, si c'est possible, à cette maladie génétique, pas de l'éradication de cette maladie. Et là également, il cherche à savoir comment se fait-il qu'il a des enfants qui ont cette maladie et d'autres n'en ont pas. Et puis comment prévenir l'anémie SS, et puis comment se fait qu'il y a des parents qui font des examens. Ah là, je crois qu'ils vont revenir à ce que vous avez parlé pour le coupage sanguin. Il commence à faire qu'il y a des parents qui font ces examens et après ils se retrouvent avec des enfants anémiques.
Merci beaucoup, merci, c'est Monsieur Didier. Hein?
Monsieur Didier Kassoumi.
Oui, Monsieur Didier, merci beaucoup à vous, merci pour l'attention que vous accordez à cette émission. Et ça nous fait grandement plaisir. On a beaucoup apprécié, moi personnellement, vos questions. C'est vraiment bien. La première question, vous avez demandé, il a voulu savoir si on peut éradiquer cette pathologie. Oui, c'est possible. C'est possible d'éradiquer ça. En fait, moi étant croyant, j'ai toujours dit que Dieu nous bénit, Dieu nous aime beaucoup et il veut notre bien, notre bonheur. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il donne toujours de la sagesse, hein, de l'intelligence aux humains. Il y a par exemple, disons même 5 ans, 6 ans de cela, on ne savait pas qu'il y avait un vaccin contre la COVID. On ne savait pas. Personne ne savait qu'il y avait un vaccin contre la COVID. Mais au jour d'aujourd'hui, une grande partie de la population mondiale s'est fait vacciner contre cette maladie. Donc, pour dire en d'autres termes que ce sont les recherches scientifiques qui peuvent permettre à ce que nous puissions arriver à éradiquer cette pathologie. Et en parlant des recherches scientifiques, parce que nous sommes un centre de recherche scientifique hospitalier appelé NIECA qui œuvre dans ce domaine de la recherche scientifique voilà maintenant environ 4 décennies. Nous travaillons en tout cas surtout sur cette pathologie, la drépanocytose, et les recherches sont très très avancées. D'ailleurs, les dernières recherches que nous avons effectuées nous ont indiqué que un patient drépanocytaire homozygote SS devient AS. Et plus il continue avec les traitements, il devient AA. En fait, nous ne le disons pas comme ça, parce que ce sont les preuves scientifiques. C'est la science par ses preuves qui l'indique, qui le confirme. Alors, la science par ses preuves, c'est quoi? C'est l'électrophorèse d'hémoglobine fait avant le traitement qui confirme, par exemple, à l'INRB. Prenons un exemple. L'enfant va à l'INRB. L'INRB confirme que l'enfant est drépanocytaire SS. Parce que nous envoyons beaucoup à l'INRB, voilà pourquoi j'ai fait un peu la référence à l'INRB.
Oui.
Et l'enfant commence les traitements, il avance, il évolue environ 6 à 1 an de traitement après. On envoie l'enfant au contrôle et cette fois-ci l'INRB nous dit que l'enfant devient AS. Et vous voyez, on vous dit par exemple que l'hémoglobine...
Donc c'est certifié, c'est prouvé par l'INRB.
Oui, mais bien sûr, pas seulement l'INRB, même également la faculté de sciences pharmaceutiques confirme également ses recherches à partir de thèses et de publications scientifiques qui confirment. Et puis même en dehors de ça, parce que la meilleure confirmation que l'enfant, que du moins la prise en charge est efficace, c'est l'état clinique de malade. Quand on observe le malade par rapport à son état avant le traitement et son état après le traitement, on voit que l'enfant... au moins qu'on vous raconte que l'enfant est drépanocytaire ou bien était drépanocytaire. En tout cas, la plupart maintenant sont AS ou bien AA.
On va profiter pour un peu parler de ce que vous faites, hein, votre centre de phytothérapie à NIECA. Mais alors, dites-nous généralement, comment se fait la prise en charge médicale d'un enfant? Après, vous allez répondre à d'autres questions d'un enfant anémique.
Très bien, merci. En fait, la prise en charge, elle nécessite plusieurs choses.
Oui.
La première des choses est que nécessite d'abord que l'enfant passe en consultation. On doit le consulter pour poser le diagnostic de la maladie, l'hypothèse diagnostique. Ensuite, après cette étape, on demande également des examens complémentaires, des examens de certitude pour confirmer qu'effectivement l'enfant est drépanocytaire. Et après maintenant cette étape des examens, l'enfant peut maintenant passer à l'étape thérapeutique. Alors l'étape thérapeutique consiste à lui administrer des produits qui vont progressivement renverser la falciformation de l'hémoglobine S. Le S devient AS. Donc c'est un processus progressif qui aboutit à ces résultats dont je viens de parler.
Voilà, et on va poursuivre alors avec les questions de Marcel Didier. Il avait cette question, comment c'est fait qu'il a des parents? C'est fait qu'il y a des enfants qui sont anémiques et puis d'autres non.
Voilà, ça c'est la loi de la nature, c'est la génétique, la transmission. Voilà pourquoi d'ailleurs on parle de probabilité. La probabilité, en fait, on n'a pas la maîtrise, c'est pas une certitude qu'on donne effectivement, ça doit être comme ça, non. La probabilité, ce qui est dit scientifiquement, est que pour un père qui est AS, la maman qui est également AS, en fait, ils ont une probabilité d'avoir 25% des enfants porteurs de l'hémoglobine SS. Également, une probabilité de 50% d'avoir des enfants porteurs de l'hémoglobine AS. Également, une probabilité de 25% d'avoir des enfants porteurs de l'hémoglobine AA. C'est un peu ça, ce qui est l'explication que nous pouvons donner à M. Didier par rapport à cette question qu'il a posée.
Et une autre question de Didier Passoir, c'était comment prévenir la drépanocytose?
La prévention réside sur plusieurs choses. En fait, ce qui a toujours été rappelé, il y a toujours des conseils qui ont été donnés. D'ailleurs, vous en avez également fait mention il n'y a pas longtemps. En fait, c'est de faire les dépistages, d'aller en consultation, de faire des examens qui vous permettront d'identifier quelle est votre électrophorèse d'hémoglobine. À partir de là, vous saurez maintenant est-ce que je peux, par exemple, me marier avec un homme ou bien une femme qui a également le même... si, par exemple, vous êtes AS, dois-je prendre un homme qui est également porteur de l'hémoglobine falciformée AS comme moi? Donc, de ce qu'on connaît et qu'on s'engage, ça veut dire que on accepte également d'assumer les réalités hein, que l'on veut qu'on le va connaître.
À tout moment, il peut arriver qu'on puisse faire un enfant SS lorsque vous êtes deux parents AS. Donc dites-vous déjà, vous avez 25% de probabilité d'avoir un enfant anémique SS.
Oui, c'est exact. C'est ça en fait, c'est qu'il faut s'attendre à ça avant de s'engager dans les mariages. Il est important, en fait, de connaître son électrophorèse d'hémoglobine, connaître de quel est mon électrophorèse d'hémoglobine. Suis-je AS? Et si je suis AS? Et si je me marie avec un homme AS ou bien une femme AS, quel sera l'aboutissement? Eh bien, il y a cette probabilité-là que vous pouvez connaître dans votre lien de mariage.
Alors, docteur Junior Ndala, on dit également que cette maladie, c'est un lourd fardeau pour les familles. Ça demande beaucoup de moyens parce que l'enfant fait des crises. Il faut tout le temps aller à le faire soigner à l'hôpital. Mais pourquoi, généralement, les examens prénuptiaux, les futurs mariés ne s'intéressent pas à faire ces examens alors que on pouvait bien prévenir tout cela plutôt que d'attendre un enfant anémique SS et puis qui va chercher vraiment à ce que le parent vive entre guillemets ce calvaire de toujours chercher de moyens pour arriver à soigner l'enfant.
Vous avez abordé un élément très très important, le calvaire. D'ailleurs, quand nous parlons en cet instant, certains parents qui ont des enfants drépanocytaires et qui nous suivent, ils se retrouvent dans ces calvaires. Hein. C'est vraiment un véritable calvaire. Il y a un parent qui a un enfant drépanocytaire que j'ai connu à Mwanda, dans la province du Congo central. Il me disait, l'enfant ne pouvait pas faire 2 mois sans être hospitalisé à l'hôpital. Donc, c'était devenu une habitude dans la famille. Donc, et ces hospitalisations, parfois, ça pouvait prendre 1 semaine, 2 semaines, voire même plus. Et souvent, ça s'accompagnait de transfusions sanguines. L'enfant a été, elle était déjà âgée de 16 ans, et elle avait été transfusée plus d'une trentaine de fois. Plus de 30 transfusions sanguines. Et il est important de noter que, en fait, la transfusion sanguine, c'est le sang de l'autre qu'on transfuse à l'autre personne, avec toutes les complications, les conséquences liées à la transfusion que l'on connaît, par exemple les risques de des infections, etc. Également les incompatibilités que l'on peut également observer. Donc c'est vraiment un véritable calvaire pour beaucoup de familles, ces problèmes de santé. C'est ainsi que Par rapport à une partie de votre question, ce que vous avez demandé, vous avez posé tout à l'heure comme question, ce qu'ils envisagent de se marier, parfois les examens prénuptiaux, ils négligent ça, etc. Bon, peut-être c'est lié un peu l'aveuglement de l'amour, hein. Parfois, d'autres détails, on ne veut plus en tenir compte.
Voilà, on est plus, on se laisse emporter hein, par l'amour et puis on va se rendre compte que, et après quand vous avez un enfant anémique SS, ça vous pose beaucoup de problèmes. Alors ça c'est notre paire de manches.
Effectivement, et d'ailleurs ça m'a fait un peu penser à un couple que j'avais reçu en consultation et qu'ils avaient amené leur enfant drépanocytaire. Et ils m'ont dit, je les ai posé un peu la question, une question par curiosité pour savoir, mais... Est-ce que, avant de vous marier, vous n'avez pas eu à penser à faire les examens, par exemple l'électrophorée, d'hémoglobine? Il dit oui, on avait fait. Et qu'est-ce que le résultat de l'INRB vous avait montré? Oh, les résultats nous avaient montré que nous sommes, moi j'étais AS et mon mari, le papa aussi était AS, le mari. Et alors, qu'est-ce que vous avez envisagé de faire? Oh, on s'est dit non, ça c'est pas notre problème. Vous voyez un peu.
Ils ont eu un enfant aussi.
Drépanocytaire.
Exactement. Alors, docteur, vous êtes phytothérapeute et puis vous travaillez au centre de phytothérapie à Mieka, un centre situé ici à Kinshasa, mais aussi dans certaines provinces du pays. Alors, parlons un peu de cette phytothérapie pour ce qui est de l'anémie SS.
Très très bien, merci beaucoup. La phytothérapie congolaise, hein. En fait, nous pouvons la définir.
Bon, ouais, tout à fait. C'est quoi d'abord la phytothérapie? Parce que phyto, plante, thérapie, voilà, traitement, alors expliquez nous un peu. Voilà, oui.
Voilà, merci beaucoup. En fait, la phytothérapie, c'est une thérapie, un traitement. La thérapie, c'est un traitement basé sur l'administration des médicaments. Des médicaments, en fait, issus de plantes médicinales, de plantes qui ont des vertus thérapeutiques. Hein. Vous voyez, la plupart des médicaments pharmaceutiques, vous allez vous acheter peut-être la quinine, etc. En fait, l'origine, c'est dans les plantes, hein, ça provient de plantes. Et ces plantes, en fait, ont été transformées en comprimés, en solutions, etc., en injectables. Voilà, on les retrouve sous cette forme. Mais la provenance, l'origine, on va voir que c'est en fait, ce sont des plantes. Et nous n'avons pas pu le transformer, par exemple, en comprimé, etc. On les utilise un peu à l'état pur. Mais ce sont des plantes qui ont des vertus thérapeutiques, c'est-à-dire qui permet d'apporter une amélioration, voire même une guérison par rapport à certaines maladies. Et c'est ça, en fait, la phytothérapie soignée avec des plantes médicinales qui ont des vertus thérapeutiques sur plusieurs pathologies, entre autres l'anémie SS ou bien la drépanocytose. Par exemple, le traitement de la drépanocytose, c'est-à-dire notre pays est très grandement riche, hein. Notre pays est grandement béni par Dieu parce que la diversité que nous avons dans notre pays. Vous voyez ce qu'on appelle le poumon de la forêt, hein, notre oui. Forêt, le bassin du Congo. C'est une forêt très très riche en diversité. Donc jusqu'à ce jour, on n'a même pas exploité les 1 centième, le 10 centième.
De tout ce qu'on trouve dans cette forêt comme essence pour soigner des maladies.
Elle est encore vierge, la forêt.
Encore vierge. Voilà, il y a un autre auditeur en ligne, Safari, hein, qui intervient depuis Iga Barrière. Bonjour Safari.
Oui, bonjour monsieur. Bonjour également monsieur l'invité. Oui, par rapport à cette mission, j'aimerais poser une petite question par rapport à moi-même. Ma question est de savoir, parce que moi-même j'ai fait l'anémie, et j'étais trop petit. Ça c'est l'histoire qui date de 1993 là-bas. J'ai fait l'anémie, mais j'étais soigné à base de plantes. C'était des soins traditionnels. J'ai été guéri au plus tard là-bas. Mais la question qui me revient chaque fois dans la tête, comme vous dites que non, l'anémie peut être transmise des parents aux enfants, mais dans ma famille, j'ai eu à faire l'anémie moi seul. D'autres enfants n'ont pas fait l'anémie après moi. C'est ce qui me revient dans la tête pour vous poser la question, parce que comment est-ce que moi j'ai eu affaire à l'anémie, moi seul, j'étais l'aîné de la famille, bien sûr, mais les autres n'ont pas fait l'anémie. Et puis, la question qui sera pour la deuxième position est de savoir si les parents sont des SS, comme vous le dites là. Est-ce qu'il est obligatoire que les enfants, leurs enfants, aient l'anémie? Est-ce que c'est obligatoire? Ouais, c'est seulement ça ma contribution pour l'émission. Merci.
Merci Safari depuis Iga Barrière. Docteur Junior Ndala, vous avez la parole.
Merci beaucoup à vous Safari. Merci pour vos questions. Par rapport à votre première question, vous avez signalé que vous avez été soigné avec des plantes médicinales, vous avez souffert de l'anémie, bon, et que vous avez observé que depuis lors jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ces jours, vous êtes bien portant. C'est bien, c'est réjouissant. C'est-à-dire que je profite un peu pour ouvrir une parenthèse pour montrer que il est important que nous nous contentions de ce que Dieu nous a donné. On peut être riche, mais tout en étant pauvre, hein. Peut-être parce qu'on le désire nous-mêmes, hein. On peut être entouré beaucoup de nourriture, de plusieurs choses, mais on meurt de faim. Donc c'est vraiment une situation que nous devons vraiment tous combattre, exploiter ce que Dieu nous a donné pour nous prendre soin nous-mêmes. Et d'ailleurs j'ai apprécié le fait que vous êtes fait soigner avec le produit naturel issu de notre environnement. C'est vraiment une bonne chose et ça vous a donné de bons résultats. Alors vous avez également demandé, posé la question de savoir
pourquoi il était le seul de la famille à être anémique SS et pas les autres membres de sa famille.
Très bien. On en a parlé ici, monsieur Safari, la probabilité. Ouais. En fait, c'est ça. En fait, il y a cette probabilité là qui fait que les autres sont malades, les autres sont bien portants. Donc, c'est lié à la probabilité. Hein. C'est en fait ça, c'est ce qu'on peut dire par rapport à votre question.
Alors, vous allez répondre à sa deuxième question. Il est temps pour nous de accorder la parole à notre auditeur qui est en ligne, Pierron Pagna, qui nous appelle depuis Lubumbashi. Bonjour, Pierron Pagna.
Bonjour, merci. Je dis bonjour à l'invité et à tous les auditeurs de la radio Capi. Oui, c'est une des activités que nous avons, parce que ici à Lubumbashi, je suis dans un centre où on soigne uniquement les enfants drépanocytaires. Le centre, c'est ADPA, c'est Association Mère et Enfant. Nous luttons aussi contre cette maladie de la drépanocytose. J'avais quelques questions à poser à notre invité, mais avant cela, j'aimerais révéler encore quelque chose sur ce qu'il venait de dire sur il y a quelqu'un qui le premier intervenant qui a demandé que comment on peut éradiquer cette maladie. Moi, je n'ai pas compris comment il nous a expliqué là, s'il peut recommencer, parce que c'est une maladie où il y a de la déformation des globules. Comment un vaccin peut faire à ce que ces globules puissent prendre la bonne forme? Parce que la forme normale, c'est la forme ronde ou biconcave. Mais quand la personne a la forme change et devient en banane, là, ça complique. Comment le vaccin peut faire à ce que cette forme de banane puisse arriver à la forme normale par des vaccins? C'est ça qui les malades, que le premier invité doit un peu avoir des éclaircissements. Pour qu'il sache aussi que le meilleur des traitements pour mettre fin à cette maladie, c'est d'abord éviter des mariages hétérozygotes. Homozygote plutôt. Aux enfants qui sont déjà avec cette maladie, c'est seulement la greffe de la moelle osseuse. Or, la greffe ici au pays, je ne sais pas encore si peut-être à Kinshasa, mais à Lubumbashi, c'est un peu difficile. Et la première question que je voulais poser à l'invité était de savoir, pendant ici à Lubumbashi, pendant cette période, nous avons donc c'est une période de froid. Or, nous savons que dans la théorie, on nous dit que pour qu'il y ait des crises de drépanocytose, il faut avoir une activité qui bloque ou qui prive l'oxygène dans les sangs. Qu'est-ce qui justifie que pendant les froids, les enfants commencent aussi à faire des crises répétées? Ça, c'était la première question. La deuxième question était de savoir qu'est-ce qui fait que la majorité des enfants drépanocytaires font aussi la gastrite. Ça, il peut aussi me répondre à cette question. Et pour chiter, est-ce qu'il est, il existe aussi des drépanocytaires hétérozygotes? Parce que j'ai une personne qui a l'hémoglobine AS, mais qui fait aussi le crise, surtout pendant cette période de froid. Je dis et je vous remercie.
Voilà, merci Pierron Pagna depuis Lubumbashi. Voilà, on va rapidement, vous allez rapidement répondre à toutes ces questions de Pierron Pagna. Là, il a cherché à savoir quand on a parlé d'éradication, vous avez parlé du vaccin, n'arrive pas à comprendre comment on peut éradiquer cette maladie avec un vaccin contenu de cette hémoglobine falciformée. Il a également cherché à savoir pourquoi, d'après les constats faits, les enfants anémiques SS font souvent des crises pendant la saison. Sèche, hein, donc lorsqu'il fait froid. Et puis pourquoi également il y a des ils ont des problèmes avec il a cherché à savoir pour est-ce qu'un enfant a hétérozygote AS peut aussi faire des crises d'anémie SS. Et puis il avait également cette question qu'on n'avait pas encore répondu hein, sur Safari hein, depuis Igabariel, car je cherche à savoir également qu'on revienne sur, je crois que vous l'avez déjà dit, mais vous allez encore y revenir, sur les parents. Comment se fait-il qu'il y a des parents qui ont des enfants anémiques SS et d'autres non?
Merci beaucoup, merci à Monsieur Pierrot, merci beaucoup pour vos questions et également l'attention que vous accordez à l'émission. Merci. Parmi les questions que vous avez y a posées, par exemple, vous avez posé la question par rapport à l'éradication.
Tout à fait. Vous avez parlé du vaccin. Alors, il s'agit d'hémoglobine falciformée. Comment le vaccin peut mettre fin à la formation de cette hémoglobine?
Merci. En fait, les vaccins, j'avais pris les vaccins comme exemple, hein, tout simplement comme exemple, pour montrer que les recherches scientifiques sont en cours, avancent. Et nous avons une équipe scientifique qui est composée de professeurs d'université, de Kinshasa, de médecins, de biologistes médicaux, de pharmaciens, etc. Donc, avec eux, voilà maintenant plus de 3 décennies, nous allons maintenant vers 40 ans d'ici là, que dont nous travaillons là-dessus.
Il est également revenu sur le fait que ça s'est connu à pousser que de la médecine moderne. Actuellement, la solution, c'est la greffe hein, de la moelle osseuse, mais qui coûte énormément cher. C'est pas la portée de toutes les bourses. Et vous n'êtes pas concerné par la médecine moderne. Donc, vous ne recourez pas à cette greffe de la moelle osseuse, si je comprends bien.
En tout cas, moi, j'ai parlé avec des patients, des parents de malades qui ont eu à bénéficier de la greffe. Beaucoup regrettent. Parce que il n'y a pas eu le cas de succès. Hein. Le succès est vraiment la probabilité est très faible.
C'est-à-dire la réussite n'est pas totale.
Voilà, hein, effectivement, la réussite elle est vraiment n'est pas totale. Donc c'est qu'on peut dire. Alors aujourd'hui, mon frère Pierrot, Pierrot Piana, les recherches scientifiques que nous avons effectuées prouvent très clairement, preuve à l'appui, résultat de l'université de Kinshasa, le laboratoire. L'analyse médicale, également de l'INRB, etc., de plusieurs autres laboratoires de notre pays, confirme que l'enfant drépanocytaire homozygote SS, avec une thérapie administrée, des recherches que nous avons effectuées, permet à l'enfant qui était hétérozygote, homozygote SS de devenir hétérozygote AS. Et vous voyez, par exemple, après même 6 mois, vous voyez que l'hémoglobine falciformée S est peut-être à 60% ou bien à 70%. Et l'hémoglobine normale A est maintenant à 30% ou à 40%. Et plus l'enfant avance avec le traitement, plus on observe une diminution de l'hémoglobine falciformée S et une augmentation de l'hémoglobine normale A. Et l'aboutissement, les résultats de l'INRB et d'autres laboratoires indiquent que l'enfant devient AA.
Et rapidement, une question aussi, hein, une réponse à cette question. Est-ce que un enfant AS peut faire aussi de crise comme s'il était anémique SS?
Oui, je l'ai dit ici, en fait. Un enfant, le problème, c'est le pourcentage de l'hémoglobine S, l'hémoglobine falciformée. Si l'hémoglobine falciformée a un pourcentage plus élevé que l'hémoglobine normale A, il y a cette probabilité de que l'enfant fasse des crises. Donc, l'enfant sera ce qu'on appelle drépanocytaire hétérozygote. Et il fera, bien sûr, des crises. Peut-être que, en fait, ces crises ne seront pas pareilles à celles d'un enfant drépanocytaire SS. Mais il y aura probabilité. D'ailleurs, on le voit. Vous voyez, par exemple, quelqu'un qui vous dit « j'ai souvent des douleurs ostéo-articulaires, etc. » Et quand vous lui dites de vous faire l'électrophorée d'hémoglobine, eh bien, ça montre qu'il est drépanocytaire hétérozygote.
Il a posé cette question, pourquoi ces enfants font souvent un problème de d'estomac, si j'ai bonne mémoire, de crise de maux d'estomac, et pourquoi pendant la saison sèche, souvent ces enfants se plaignent de douleurs et font des crises
Très bien. En fait, les crises, parfois, peuvent être déclenchées par plusieurs facteurs. Même une infection peut amener l'enfant à présenter d'affaires des crises vaso-occlusives, hein, que l'on observe chez les drépanocytaires. Donc, tous ces facteurs-là, en fait, expliquent ce qu'on observe chez les crises qu'on observe, hein, peuvent être déclenchées par tel ou tel facteur, telle ou telle cause, peut aboutir également à des crises, hein, également à les ulcères de l'hyperacidité au niveau de l'estomac. Ça peut être lié également, par exemple, au stress, etc. On ne doit pas oublier qu'un enfant drépanocytaire, c'était un enfant, un cas particulier, qui n'est pas comme tout autre enfant. Hein? Donc, voilà pourquoi on observe toute une multitude de complications, de signes cliniques, de manifestations cliniques, c'est cet enfant.
Alors, avant de se quitter, parlons rapidement de votre centre de phytothérapie à Agnica, ou si les gens qui veulent bien peut-être découvrir également cette médecine naturelle à phytothérapie et comment, qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire.
Voilà, très bien, merci beaucoup. Le centre de recherche scientifique hospitalier Agnica, c'est un centre qui a été créé par le chercheur inventeur docteur Anaclé Agnica. Qui a d'ailleurs l'État congolais lui avait donné 5 brevets d'invention et également les autorisations de mise sur le marché de ce qu'on appelle AMM par rapport à ses recherches. D'ailleurs, c'est un chercheur reconnu au niveau du ministère de la recherche scientifique. Alors, le centre de recherche scientifique hospitalier Agnica, c'est un centre de notre pays, situé à Kinshasa et également dans plusieurs autres provinces. Pour ceux qui aimeraient bien sûr nous contacter, ils peuvent nous joindre au numéro plus 243 85 486 00 28 plus 243 85 486 00 28 ou bien 082 032 33 19. 082 032 33 19. En tout cas, s'ils essaient de nous contacter par ces moyens, ils entreront en contact avec le Centre de recherche scientifique hospitalier INIECA.
Docteur Junior Ndala, anesthésiste, réanimateur et phytothérapeute, merci d'avoir été avec nous dans ce studio pour parler de la drépanocytose, anémie SS, cause symptômes et prise en charge médicale. Et bonne journée à vous.
Merci et tout le plaisir est à moi. Merci à vous.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net. Mmh.
Les